Le signe des quatre, une aventure de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle. Je pouvais entendre la cadence des pas résonner le long du corridor désert. Soudain, ce fut le silence, puis des voix, le bruit confus d'une bagarre, des coups assourdis. Un instant plus tard, j'entendis à ma grande horreur des pas précipités se dirigeant dans ma direction et la respiration bruyante d'un homme en train de courir. Je dirigeai ma lanterne en bas vers le long passage rectiligne et je vis le gros homme courant comme le vent, le visage ensanglanté, le grand sic à la barbe noire le talonnait, bondissant comme un tigre et la lame d'un couteau brillait dans sa main. Je n'ai jamais vu un homme courir aussi vite que ce petit marchand. Il distançait le sic. Je me rendis compte que s'il passait et parvenait à l'air libre, il pourrait encore se sauver. Mon cœur compatit pour lui, mais à nouveau la pensée du trésor m'endurcit de cynisme. Je lançai mon fusil entre ses jambes quand il fila devant moi et il boula sur lui-même comme un lapin atteint d'une décharge. Avant qu'il ait pu se relever, le sic était sur lui et lui plongeait par deux fois le couteau dans le dos. L'homme ne bougea pas, ne poussa pas un seul gémissement. Il demeura là où il était tombé. J'ai pensé depuis qu'il s'était peut-être rompu le cou dans sa chute. Voyez, messieurs, je tiens ma promesse. Je vous raconte l'affaire exactement comme elle s'est passée, que ce soit ou non en ma faveur. » Il se tut et tendit ses mains attachées vers le verre de whisky que Holmes lui avait préparé. J'avoue que, personnellement, cet homme m'inspirait la plus grande horreur, non seulement à cause de ce meurtre accompli de sang-froid auquel il avait été mêlé, mais plus encore par la manière nonchalante et dégagée avec laquelle il nous en avait fait la narration. Quel que fût le châtiment qui l'attendait, je ne pourrais jamais ressentir pour lui la moindre sympathie. Assis, les coudes sur les genoux, Sherlock Holmes et Jones paraissaient profondément intéressés par l'histoire. Mais la même répulsion était peinte sur leur visage. Small le remarqua peut-être, car c'est avec un certain défi dans la voix qu'il reprit. « bien sûr, tout cela est fort blâmable, mais... je voudrais tout de même savoir combien de gens, à ma place, auraient refusé une part du butin, en sachant que pour toute récompense de leur vertu, ils seraient égorgés. D'ailleurs, depuis qu'il avait pénétré dans la forteresse, c'était ma vie ou la sienne. S'il s'en était sorti, toute l'affaire aurait été mise en lumière. Je serais passé devant le tribunal militaire et probablement fusillé, car en ces temps troublés, les gens n'étaient pas très indulgents. » Oui. « Bien, continuez votre histoire, » coupa Holmes. « Eh bien, nous transportâmes le corps, Abdullah, Akbar et moi, et bon poids qu'il faisait, et malgré sa petite taille. Mohamed Singh fut laissé en garde de la porte. Les Sikhs avaient déjà préparé un endroit. C'était à quelque distance, à travers un tortueux passage donnant sur un grand hall vide, dont les murs de briques s'effondraient par endroits. Le sol de terre battu s'était affaissé là pour former une tombe naturelle. Nous y laissâmes Achmet le marchand, nous le recouvrîmes de briques descellées, puis nous retournâmes au trésor. Il était resté à l'endroit où l'homme avait été attaqué en premier lieu. Le coffre, c'est celui qui se trouve sur votre table. Une clé pendait, attachée par une corde en soie à cette poignée forgée sur le dessus. Nous l'ouvrîmes, et la lumière de la lanterne se refléta sur une collection de joyaux comme j'en avais rêvé ou lu l'histoire quand j'étais un petit garçon à Perchor. Leur éclat nous aveuglait. Après nous être rassasiés les yeux de ce spectacle, nous sortîmes tout du coffre pour établir la liste de son contenu. Il y avait là 143 diamants de la plus belle eau, l'un d'eux appelé, je crois, le Grand Mongol, est considéré comme la seconde plus grosse pierre du monde. Il y avait également 97 émeraudes et 170 rubis, mais dont certains étaient de petite taille. Nous dénombrâmes en outre 210 saphirs, 61 agates et une grande quantité de béryl, onyx, turquoise et autres pierres. Je me suis documenté sur les gemmes, mais à cette époque, j'ignorais la plupart de ces noms. Enfin, il y avait près de 300 perles, toutes très belles. 12 d'entre elles étaient serties sur une petite couronne d'or. Je ne sais comment ces 12-là furent retirées du coffre, mais je ne les ai pas retrouvées. Après avoir compté nos trésors, nous les replaçâmes dans le coffre que nous apportâmes à la poterne afin de les montrer à Mahomet Singh. Là fut renouvelé le serment solennel de garder le secret et de ne jamais nous trahir. Il fut convenu que le butin serait planqué dans un endroit sûr jusqu'à ce que la paix soit revenue dans le pays, après quoi nous le partagerions également entre nous. Il était inutile d'effectuer ce partage maintenant, car si jamais des gemmes d'une telle valeur étaient trouvées sur nous, cela paraîtrait suspect. D'autre part, nous ne disposions pas de logement personnel, ni d'aucun endroit où nous puissions les cacher. Le coffre fut donc transporté dans le hall où reposait le corps d'Achmet. Un trou fut ménagé dans le mur le mieux conservé, et le trésor y fut placé et recouvert par des briques. Après avoir soigneusement repéré l'emplacement, je dessinai le lendemain 4 plans, un pour chacun d'entre nous, et mis au bas le signe des 4. Nous nous étions en effet promis que chacun agirait toujours pour le compte de tous, afin que l'égalité soit préservée. Voilà un serment que je n'ai jamais rompu, je puis le jurer la main sur le cœur. Il est inutile, messieurs, de vous raconter ce qu'il advint de la rébellion. Après que Wilson se fut emparé de Delhi et que Sir Colin eut dégagé Lucknow, la révolte eut les reins brisés. Des renforts ne cessaient d'affluer. Une colonne volante sous les ordres du colonel Greathed parvint jusqu'à Agra et en chassa les rebelles. La paix semblait lentement s'étendre sur le pays. Nous espérions tous les quatre que le moment était proche où nous pourrions partir en toute sécurité avec notre part du butin. Mais en un instant, nos espoirs s'effondrèrent. Nous fûmes arrêtés pour le meurtre d'Achmet. Voilà comment cela se produisit. Le Raja avait remis les joyaux entre les mains d'Achmet parce qu'il savait que celui-ci était un homme dévoué. Mais en Orient, les gens sont très méfiants. Que fit alors le Raja ? Il prit un deuxième serviteur, encore plus digne de confiance, et le chargea d'espionner Achmet, de le suivre comme une ombre et de ne jamais le perdre de vue. Il le suivit donc cette nuit-là et le vit passer la poterne du fort. Pensant évidemment qu'il y avait trouvé refuge, il se fit admettre le jour suivant, mais ne parvint pas à retrouver la trace d'Achmet. Cela lui sembla si étrange qu'il en parla à un sergent qui fit parvenir l'histoire jusqu'aux oreilles du commandant. Une recherche approfondie fut rapidement organisée et le corps fut découvert. Ainsi, au moment même où nous croyions tout danger écarté, nous fûmes tous quatre saisis et jugés pour meurtre. 3 d'entre nous parce que nous avions été de garde cette nuit-là, et le 4e parce que l'on savait qu'il avait été en compagnie de la victime. Et le 4e parce que l'on savait qu'il avait été en compagnie de la victime. Il ne fut pas question des joyaux durant tout le procès. Le Raja avait été déposé et exilé, et personne ne portait d'intérêt particulier à cette question. Les 3 Sikhs furent condamnés à la détention perpétuelle et moi à la peine de mort. Ma sentence fut ensuite commuée en détention perpétuelle. Nous nous trouvions ainsi dans une situation plutôt bizarre. Nous étions là, tous 4, enchaînés par la cheville, et presque sans espérance, alors que nous connaissions un secret qui, si nous avions pu l'utiliser, nous aurait permis de mener une existence de seigneur. Il y avait de quoi se ronger le cœur d'être à la merci des coups de pied et des coups de poing de n'importe quel garde imbécile, de boire de l'eau et de ne manger que du riz, alors qu'une fortune fabuleuse attendait simplement qu'on veuille bien la prendre. Cela aurait pu me rendre fou, mais j'ai toujours été plutôt obstiné. J'ai tenu bon, attendant des jours meilleurs. Ceux-ci semblèrent enfin se dessiner. Je fus transféré d'Agra à Madras et de là à l'île Blair dans les Andamans. Ce camp comptait très peu de bagnards blancs et comme je m'étais toujours bien conduit, j'eus bientôt droit à une sorte de régime privilégié. Il me fut donné une hutte à Hopetoun, village situé au flanc du mont Harriet, et on m'y laissa relativement tranquille. C'est un endroit morne, dévasté par les fièvres et cerné de toutes parts par la jungle infestée de sauvages, toujours prêts à décocher un de leurs dards empoisonnés lorsque l'occasion d'une cible blanche se présente. Il y avait des tranchées à creuser, des remblais à construire, des plantations à aménager et des dizaines d'autres choses à faire. Nous trémions donc tout le jour, mais le soir on nous laissait un peu de temps libre. Entre autres fonctions, j'étais chargé de distribuer les médicaments. J'acquis ainsi quelques connaissances médicales. J'étais sans cesse à l'affût d'une possibilité d'évasion. Mais la plus proche terre était à des centaines de kilomètres de notre île. Et le vent souffle rarement par là. L'entreprise s'avérait donc très difficile. Le médecin, Dr. Somerton, était un jeune homme sportif et bon enfant. Les autres jeunes officiers se réunissaient souvent chez lui dans la soirée pour une partie de cartes. L'infirmerie où je préparais mes drogues était située à côté de leur pièce sur laquelle donnait un petit guichet. Souvent, lorsque je me sentais seul, j'éteignais la lumière de l'infirmerie et me postais près du guichet d'où je pouvais les entendre et les voir jouer. Il y avait le major Sholto, le capitaine Morstan et le lieutenant Bromley Brown. Tous trois commandants des troupes indigènes. Le médecin était là naturellement, ainsi que deux ou trois administrateurs du pénitencier. Ces derniers, joueurs habiles, endurcis, faisaient des parties à droite et sans risque. Cela donnait des réunions bien agréables. Une chose me frappa très vite, les civils gagnaient toujours aux dépens des militaires. Remarquez que je ne dis pas qu'il y avait tricherie, mais le fait est là. Ces fonctionnaires de la prison n'avaient fait que jouer aux cartes depuis leur nomination aux Andamans, et chacun connaissait parfaitement la façon de jouer des autres. Les militaires jouaient juste pour passer le temps et jetaient leurs cartes n'importe comment. Nuit après nuit, les officiers sortaient de table un peu plus pauvres, et plus ils perdaient, plus ils s'acharnaient au jeu. Le major Sholto était le plus atteint. Au début, il jouait de l'argent liquide, mais bientôt il s'endetta lourdement et signa des reconnaissances de dettes. Il gagnait parfois quelques mains, histoire de reprendre courage, puis la chance se retournait à nouveau contre lui, pire qu'avant. Il errait tout le jour, sombre comme un orage, et il se mit à boire plus qu'il n'aurait dû. Une nuit, il perdit encore davantage qu'à l'ordinaire. J'étais assis dans ma hutte, lorsque le capitaine Morstan et lui, regagnant leur demeure, passèrent à proximité. C'étaient des amis de cœur, ces deux-là. On les voyait toujours ensemble. Le major se lamentait sur ses pertes. « C'est la fin, Morstan, » soupira-t-il en passant devant ma hutte. « Il va falloir que je démissionne, je suis un homme ruiné. »« Allons, ne dites pas de bêtises, mon vieux, » dit l'autre en lui tapant l'épaule. « J'ai aussi de la déveine moi-même, mais... » C'est tout ce que je pus entendre. Cela me donna à réfléchir. Deux jours plus tard, le major se promenait sur le bord de la plage. Je tentai ma chance. « Je désire avoir votre avis, major, » dis-je. « Oui, eh bien, quel sujet ?» demanda-t-il en retirant son cigare de la bouche. « Je voudrais vous demander, monsieur, à quelles autorités devrait être remis un trésor caché. Je sais où se trouve plus d'un demi-million. » Comme je ne puis l'utiliser moi-même, je pense que la meilleure chose à faire est sans doute de le remettre aux autorités. Ce geste me vaudrait peut-être une réduction de peine. « Un demi-million, Small ?» balbutia-t-il tout en m'observant avec attention pour voir si je parlais sérieusement. « Au moins cela, monsieur, en perles et pierres précieuses. Il est à la portée de n'importe qui. » Le plus curieux est que le vrai propriétaire ayant été proscrit, il n'a plus aucun titre sur ce trésor qui appartient ainsi au premier venu. « Au gouvernement, Small, bégaya-t-il, au gouvernement !» Mais il le dit d'une manière si peu convaincue que je sus avoir gagné la partie. « Vous pensez, monsieur, que je devrais donc donner tous les renseignements au gouverneur général ?» dis-je tranquillement. « Ah, mais il ne faut pas agir avec précipitation, vous pourriez le regretter. Racontez-moi tout, Small. Quels sont les faits ?» Je lui racontai toute l'histoire, changeant toutefois quelques détails afin qu'il ne puisse identifier les endroits. Lorsque j'eus fini, il resta immobile, perdu dans ses pensées. Je pouvais voir, par ses lèvres crispées, qu'un combat se déroulait en lui. « C'est une affaire très importante, Small, » dit-il enfin. « N'en parlez à personne, je vous reverrai bientôt. »